Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. Le Saint-Père a exprimé sa douleur pour la tragédie des migrants au Texas et dans l'enclave espagnole de Melilla. Suite au report de son voyage en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, le pape a décidé d'envoyer à Kinshasa et à Djouba le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. L'Église au Cameroun continue à prêcher la paix et le dialogue malgré un conflit qui dure déjà 5 ans. Nous y reviendrons dans l'actualité de l'Église de cette édition. L'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine ont réclamé une enquête sur le drame des migrants survenus à Melilla. La tension préélectorale se poursuit au Sénégal. Le chef du gouvernement guinéen a reçu le principal formation politique en vue d'un dialogue devant aboutir à une transition apaisée. Les détails dans l'actualité sociopolitique de cette édition. Encore une fois, bienvenue et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Combé.
Deux drames d'émigration ont fait réagir le pape François dans un tweet mardi. J'ai appris avec douleur la nouvelle des tragédies des migrants au Texas et à Melilla, a-t-il écrit. Le Saint-Père a appelé à prier pour ceux qui ont perdu la vie et aussi pour que le Seigneur ouvre nos cœurs et que ces malheurs ne se reproduisent plus. Hier, un camion transportant des migrants a en effet été découvert avec 46 cadavres dans sa remorque à San Antonio, au Texas, tandis qu'un passage en force de 2000 migrants a coûté la vie à 23 d'entre eux vendredi à l'entrée de l'enclave espagnole de Melilla. Les évêques d'Espagne ont appelé à des mesures concrètes. Les détails avec Claire Yobé.
Des mesures d'humanisation, c'est ce qu'écrivent les évêques espagnols en charge des dossiers migratoires. L'externalisation et la militarisation des frontières ne suffiront pas à mettre fin au problème, estime-t-il. Il est nécessaire de protéger chaque être humain et d'établir des moyens d'accès légaux et sûrs. Pour eux, il faut aussi traiter les causes, se pencher sur la misère de milliers de migrants subsahariens entassés de l'autre côté de la frontière espagnole, une situation provoquée par les guerres et la famine et aggravée par les conséquences de la guerre en Ukraine et le changement climatique. Les prélats espagnols demande donc de promouvoir la collaboration pour le développement avec les pays de départ, tout en mettant fin à une utilisation partisane et démagogique de la migration. De son côté, la commissaire réclame une enquête indépendante et crédible suite à cet épisode tragique. La commission des épiscopats de l'Union européenne condamne le recours à la violence par les migrants et appelle les forces de l'ordre à la mesure. Enfin, estime-t-elle, la gestion des migrations par l'UE ne peut consister à donner un chèque en blanc aux pays voisins qui ne respectent pas la dignité inaliénable des migrants et des réfugiés.
Suite au report de son voyage apostolique en Afrique, le pape François a décidé d'envoyer à Kinshasa et à Djouba le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège, Stanislas Kambashi.
La visite du cardinal Pietro Parolin aura lieu entre le 1er et le 8 juillet, en signe des proximités du souverain pontife au bien-aimé peuple congolais et sud-soudanais, qu'il ne pourra pas visiter en personne pour le moment en raison, comme il a dit au début du mois, de l'acceptation de la demande des médecins et afin de ne pas annuler les résultats des thérapies du genou encore en cours. La conférence épiscopale congolaise, dans un communiqué publié le 25 juin dernier, a rassuré les Congolaises et Congolais que cette visite du secrétaire d'État ne se substitue pas à celle du pape François, qui n'est que reportée. Le cardinal Parolin célébrera la messe à Kinshasa, dans l'esplanade du Palais du Peuple, le dimanche 3 juillet, et à Djouba, au mausolée du docteur John Garang, le jeudi 7 juillet.
Le pape François a encouragé mardi les jeunes participant à la première rencontre mondiale du tourisme de jeunes qui se déroule cette semaine dans la ville de Sorrente en Italie à être des messagers d'espoir et de renaissance pour l'avenir. Je vous encourage à utiliser le temps dont vous disposez de manière judicieuse et responsable. C'est ainsi que vous grandissez et que vous vous préparez à assumer des tâches plus exigeantes, leur a-t-il dit dans un vidéo message. Voilà 5 ans que l'ouest du Cameroun est le théâtre d'un conflit sécessionniste de la part de groupes armés anglophones. Pour l'église catholique locale, il n'est pas facile de prêcher la paix et de favoriser le dialogue. Écoutons le témoignage de Mgr Ndron Keya Fwanya, l'archevêque de Bamenda et président de la conférence épiscopale camerounaise.
L'église doit témoigner la présence du Christ et l'amour de Christ et la réconciliation parmi les gens. Mais vous voyez, dans une situation de crise comme chez nous, il y a deux parties. Le gouvernement pense que l'Église doit être avec eux Et les séparatistes pensent la même chose. Mais l'Église doit rester au milieu pour réconcilier les gens et pour parler, n'est-ce pas, de la paix. Et on ne peut pas prêcher autrement. Deuxièmement, l'Église soutient aussi le dialogue. Et on voit comment faciliter ce dialogue entre le gouvernement et les séparatistes pour voir comment on peut arriver à une situation qui va donner satisfaction aux deux parties. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans un jour, mais on doit continuer et insister parce que c'est seulement le dialogue qui peut nous faire sortir de cette situation de la crise au Cameroun.
Monseigneur Ndonkeya Fwanya, l'archevêque de Bamenda et président de la conférence épiscopale camerounaise. Les meurtriers du père Christopher Odia Ogedegbe Daouchi ont été arrêtés. La nouvelle a été annoncée par l'évêque auxiliaire du diocèse de Mina, Monseigneur Lucas Sylvester Gopep. Les ravisseurs ont ouvert le feu sur leurs poursuivants, tuant l'un d'entre eux et blessant gravement trois autres. Les jeunes n'ont pas abandonné jusqu'à ce qu'ils attrapent les deux membres du gang. L'un des kidnappeurs a été brûlé à mort et l'autre a été remis aux policiers. Direction la Côte d'Ivoire, le diocèse de Grand Bassam a rendu grâce à Dieu pour ses 40 années d'existence. La messe conclusive de ce jubilé, doublée de la clôture de l'année pastorale 2021-2022, a été célébrée dimanche 26 juin dans une grande allégresse sur l'esplanade de la future cathédrale Saint-Esprit de Mokéville. Le compte-rendu de Marcel Aristan Blé.
Action de grâce au Seigneur, c'est ce à quoi le cardinal Jean-Pierre Coutois a invité lors de l'homélie de cette messe qu'il présidait. Une invitation à laquelle l'archevêque d'Abidjan a associé les ouvriers de la première heure de ce diocèse. Après 40 ans d'existence, l'archevêque d'Abidjan a exhorté le diocèse de Grand Bassam à entendre le souffle de l'esprit qui l'invite à aller plus en profondeur, à élargir l'espace de sa tente pour répondre au mieux à sa vocation. Pour le cardinal Jean-Pierre Coutois, cette célébration doit faire comprendre aux filles et fils de ce diocèse jubilaire toute l'urgence pour eux de passer à une nouvelle vie en toute liberté qui exige, selon lui, pour les prochaines années, une radicalité pour infuser les valeurs de l'Évangile dans nos sociétés. Dressant le bilan de ces quatre décennies du diocèse de Grand Bassam, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Raymond Awa, a affirmé qu'il y a une croissance normale avec des repères fixes et surtout des résultats qui se vérifient avec le nombre du clergé.
Nous avons plus de 150 prêtres, autant de religieux aussi, un peu disséminés dans le monde entier. Nous avons des infrastructures et l'avenir est serein. Les défis nous le connaissons, il y a des nouvelles paroisses à créer pour se rapprocher plus des communautés chrétiennes. On a besoin d'écoles catholiques, pourquoi pas université catholique dans la région d'Abouasso. On a besoin aussi de former tout le monde pour que l'Église puisse marcher à la même allure.
Marcel Aristone Blé, Grand Bassam, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Le diocèse de Pala, au Tchad, a célébré dimanche 26 juin à la cathédrale Saint-Pierre et Paul la clôture de l'année de la famille lancée par le pape François en 2021. Une vingtaine des couples chrétiens ont commémoré à l'occasion le jubilé d'or de leur mariage chrétien. C'est l'ordinaire du lieu, Monseigneur Dominique Tinouji, qui a présidé cette eucharistie. Séverin Dingatolum.
Ils sont 24 couples venus de différentes paroisses du diocèse à rendre grâce au Seigneur pour les 50 ans de vie commune dans le sacrement de mariage et à demander sa bénédiction pour les jours qu'il leur accordera encore. Dans son mot de circonstance, l'abbé Gaspard Djounoumbi, curé de la paroisse cathédrale, a tout en remerciant le couple jubilaire pour leur témoignage de vie chrétienne, invité l'assemblée à prier pour eux et pour les jeunes qui sont dans les premiers pas du mariage chrétien. Dans son homélie, Mgr Dominique Tinodi a tout d'abord remercié les premiers missionnaires qui n'ont pas perdu de vue la valeur du mariage chrétien dans leur évangélisation, avant de louer la grandeur et la qualité d'amour de ces couples jubilaires. Car, poursuit-il, 50 ans de vie de fidélité dans le mariage chrétien méritent plus que félicitations et encouragements. Ce sont des exemples à suivre, a-t-il conclu. Les couples jubilaires n'ont pas caché leur satisfaction. Pour eux, ils sont arrivés à ce jour par pure grâce de Dieu. Sachant enfin que les couples jubilaires ont reçu d'une part, des mains de l'ordinaire du lieu, la bénédiction, les attestations de félicitations et des chapelets, et d'autre part, des fidèles, parents et amis, de cadeaux en nature et espèces. Séverin Ngatolum pour Radio Vatican.
Au Congo, l'Assemblée générale spéciale des ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Brazzaville s'est ouverte dimanche par une messe présidée par l'archevêque métropolitain de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manamika, un cheminement diocésain placé sous les signes de la synodalité. Séverin Moussavo pour nous en parler.
En présence de Monseigneur Xavier Corona, nonce apostolique au Congo et au Gabon, et de Monseigneur Ildever Mwanga, évêque de Kinkala, Monseigneur Bienvenu Manamika, archevêque de Brazzaville, a ouvert officiellement l'Assemblée générale spéciale des ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Brazzaville. La messe d'ouverture a eu lieu le dimanche 26 juin en la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. Cette messe a connu la présence de plus de 200 prêtres séculiers et religieux. Ces prêtres sont venus d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. De même, les religieuses et les fidèles laïcs du Christ y ont pris part. Pour Monseigneur Manamika, cette assemblée spéciale se veut être une occasion pour laver le linge sale en famille.
Chers amis, nous serons amenés à nous parler franchement, dans un esprit de respect mutuel et de bienveillance. Mais juste parler ne suffit pas. Ce lieu est aussi un lieu de réparation, voire de réconciliation, où nous serons certainement incités à panser nos blessures. Et cela dans l'esprit du psaume 84, verset 11. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent.
Monseigneur l'archevêque a par ailleurs invité chacun à jouer sa partition pour une meilleure symphonie de l'œuvre missionnaire dans son diocèse. Ce processus synodal, dit-il, permettra de déboucher sur la capacité d'apprendre des chemins neufs dans une dynamique de communion et d'affermissement. Tout cela pour un clergé et un laïcat spirituellement fort, pastoralement engagé et humainement décidé, a-t-il dit. Séverin Moussavo, Brazzaville pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'Organisation des Nations Unies a réclamé mardi l'ouverture d'une enquête indépendante après la sanglante tentative de passage en force de migrants dans l'enclave espagnole de Melilla, au cours de laquelle au moins 23 migrants ont péri vendredi et 140 policiers ont été blessés. Déjà vendredi, le chef de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, avait dénoncé le traitement violent et dégradant de ces migrants africains, réclamant une enquête sur ce drame qui sera examinée mercredi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Quant à la justice marocaine, elle a décidé lundi de poursuivre 65 migrants, en majorité des Soudanais, pour avoir participé à cette tentative de passage en force meurtrière dans cette enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc. Un tribunal de Dakar a condamné mardi à une peine de 6 mois de prison avec sursis un député de l'opposition pour avoir bravé une interdiction de manifester et relaxé dans le même dossier une autre députée dans un climat de tension préélectorale. Les députés d'opposition Détié Fall et Mam Diara Fam étaient jugés par le tribunal de grande instance de Dakar avec 82 autres prévenus qui ont tous été relaxés. Ils avaient été arrêtés le 17 juin lors d'une manifestation à l'appel de l'opposition qui avait été interdite par les autorités en raison notamment de risques de troubles. Le chef du gouvernement guinéen a reçu lundi à Conakry les principales formations politiques en vue d'un dialogue devant aboutir à une transition apaisée vers un retour à l'ordre constitutionnel. Seule une démarche inclusive, adaptée à la réalité guinéenne, permettra de poser les jalons du bien vivre ensemble que nous ambitionnons tous, a déclaré aux partis politiques, aux organisations de la société civile et aux syndicats, le premier ministre du gouvernement de transition, Mohamed Beyavogui. Cette rencontre entre les forces politiques du pays intervient à moins d'une semaine d'un sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui doit se prononcer sur une extension des sanctions économiques. Le groupe pétro-gazier algérien Sonatrach a annoncé lundi la découverte d'un important gisement de gaz à condensat dans le champ de Assir Mel dans le Sahara algérien, a-t-il annoncé lundi. Les réserves de ce gisement sont estimées à entre 100 et 340 milliards de mètres cubes de gaz à condensat. Le gaz à condensat est du gaz naturel qui contient des hydrocarbures liquides en suspension, similaires au pétrole brut, ce qui en augmente fortement la valeur. Terminons cette page d'actualité avec le Zimbabwe. La banque centrale de ce pays a annoncé lundi relever son principal taux directeur à 200%, soit le taux le plus élevé au monde pour ce pays d'Afrique australe en lutte avec une inflation galopante. L'autorité monétaire a expliqué dans un communiqué avoir plus que doublé le taux pour tenter de contenir une inflation encore aggravée par la guerre en Ukraine, exprimant sa grande préoccupation. Le Zimbabwe est plongé depuis plus de 20 ans dans une profonde crise économique qui a notamment entraîné un retrait des bailleurs internationaux en raison d'une dette insoutenable.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Les 25e journées Saint-François de Sales des médias catholiques francophones se sont tenues du 22 au 24 juin à Lourdes, en France. À la clôture de ces assises, Guy-Aimé Blotti, journaliste ivoirien de la Croix Africa, a accordé un entretien à Stanislas Kambashi, notamment sur ce que l'on peut retenir de ces journées. Suivez.
C'est un thème qui interpelle le journaliste que je suis, le chrétien que je suis, et puis qui nous ramène sur les fondamentaux, sur les choses importantes, les choses principales qui doivent déterminer notre engagement de demain. Et après cela, il y a aussi la richesse des thèmes qui permettent de mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui et de demain. On a parlé dans la première journée d'environnement, on a parlé d'écologie, on aurait souhaité peut-être que ce soit vraiment l'écologie intégrale, en parlant aussi des problèmes qui touchent d'autres parties du continent, vu que ces journées rassemblent des journalistes venus d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. On s'est senti un peu mis à côté puisque les thèmes étaient un peu franco-centrés ou européo-centrés, mais ça nous a donné de la matière pour des perspectives aussi pour nos différents continents, donc ça reste toujours utile.
Voilà, vous avez parlé de la richesse des thèmes, et vous personnellement, qu'est-ce que vous retenez de manière particulière, ce qui vous aura marqué tout au long de ces journées?
Ce que m'aura marqué durant toutes ces journées, c'est la richesse des intervenants et leur maîtrise des sujets. Ils sont très intéressants à écouter. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut retenir. Il y a aussi le retour qui était fait par les participants. Il y avait de grands participants qui n'avaient rien à envier à ceux qui sont sur la table parce qu'ils avaient des interventions remarquables et remarquées justement par l'ensemble des journalistes qui sont venus, parce que ce sont dans les apartés qui se faisaient après pour féliciter tel ou tel pour son intervention. Et ça, c'était quelque chose d'assez intéressant pour moi, une bonne richesse. Et ce qui m'a un peu plus particulièrement, moi, c'était la deuxième journée, celle de jeudi, sur le deuxième thème, quel discours sur l'économie dans les médias et sur l'économie des médias. J'ai trouvé cela assez intéressant dans la mesure où la journaliste de La Croix avait mis en évidence l'importance de questionner les chiffres et de trouver le rapport à partir desquels ces chiffres sont donnés. Parce que 1-2% dans un discours économique, qu'est-ce que ça représente dans le contexte qui a été où ça a été présenté, et qu'est-ce que ça représente aussi? Et il faut faire toutes les recherches autour, parce que ça peut être présenté comme un bon chiffre, mais en réalité, ça peut être tout autre chose. Donc, il y a cette manière d'interroger les chiffres et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé, parce que la plupart du temps, quand on a des informations sur des communiqués ou des rapports d'analyse de spécialistes, on n'arrive pas forcément à interroger tous ces chiffres-là dans le contexte. Et donc, ça a attiré mon attention sur le fait de faire un peu plus attention à ces chiffres et ce que ça pourrait donner en dehors du discours du spécialiste ou de l'institution qui le présente.
Vous avez parlé de l'eurocentrisme des terres, des sous-thèmes et des interventions. Est-ce que vous pouvez suggérer aussi à l'Église et aux institutions africaines de faire de même, d'organiser des pareilles journées à l'intention des professionnels, des médias catholiques, chrétiens ou même non chrétiens en Afrique?
Oui, c'est l'enjeu de notre participation aussi, c'est s'inspirer des bonnes choses et puis peut-être essayer de recontextualiser cela dans une perspective de nos différents continents. Maintenant, on va pas faire comme eux, c'est-à-dire on va pas africo-centrer aussi, on fera une perspective plus grande, c'est-à-dire partie des problèmes de l'Afrique pour essayer de regagner tout le monde entier. Parce que justement, l'un de mes enjeux personnels, c'est pas que l'Afrique se parle tellement à elle-même, mais qu'elle parle à l'Afrique et qu'elle parle aussi au monde entier. Et donc, que sa voix résonne et en Afrique et dans le monde entier, que l'Afrique puisse avoir, pour employer l'expression de quelqu'un que j'affectionne bien, que l'Afrique puisse risquer une parole dans un débat un peu plus mondial, un peu plus international.
Un mot de la fin de votre part, Monsieur Guillemet.
C'est de remercier Radio Vatican qui nous donne cette opportunité de discuter, de parler de cette journée Saint-François de Sales. Et puis encourager les journalistes qui sont sur le continent ou qui travaillent pour l'information religieuse, leur dire que c'est peut-être difficile dans un contexte africain avec tout ce qu'on peut connaître, mais c'est pas une raison pour abandonner. Il faut toujours être dans la perspective des lendemains heureux et travailler à se créer une bonne réputation, une crédibilité pour rivaliser avec toutes sortes de journalistes dans le monde entier.
Guillemé Ebloti, journaliste ivoirien de la Croix Africa, il était au micro de Stanislas Kambashi. Nous poursuivons notre programme avec la rubrique sur l'écuménisme et le dialogue interreligieux. Retrouvons une fois de plus Stanislas Kambashi.
Ouvrons notre rubrique par cet appel pressant des Red Clamor en faveur des migrants et demandeurs d'asile en Amérique latine. Red Clamor est les réseaux d'églises latino-américains travaillant dans les domaines de la migration, du trafic, des personnes déplacées et des réfugiés. Il s'est exprimé à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée chaque année le 20 juin. Son appel s'adressait aux principales organisations internationales, en particulier au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et à l'Organisation internationale pour les migration OIM, pour qu'elles renforcent leur soutien au projet, non seulement des gouvernements, mais surtout des organisations de la société civile, y compris les organisations religieuses. Les organisations religieuses sont les opérateurs de première ligne pour promouvoir l'aide humanitaire, économique, juridique et du travail aux demandeurs d'asile et aux migrants, a déclaré le président de Red Clamor, Monseigneur Gustavo Rodriguez, archevêque de Yucatan au Mexique. Poursuivons notre rubrique avec cette rencontre des dirigeants d'églises d'institutions africaines sur les difficultés et les réalisations pendant et après la pandémie de COVID-19. Des dirigeants d'églises d'institutions africaines se sont rencontrés à Genève mi-juin dans le cadre de la réunion du comité central du Conseil œcuménique des églises. Nous remercions les seigneurs du chemin parcouru. Nous pouvons maintenant aller de l'avant au sein de nos églises respectives et Dieu a pris les contrôles. C'est féliciter les pasteurs Emmanuel Joshua, membre du comité central du Conseil œcuménique des églises. Le but de la réunion était de discuter des difficultés rencontrées pendant et après la pandémie de COVID-19, mais également des choses qui ont pu être réalisées au cours de cette période. Pendant la pandémie, nous avons dû nous adapter et délivrer l'office de façon nouvelle, notamment en ligne, y compris dans des zones rurales, a rappelé le diacre Adebayo Anthony Kehinde, responsable œcuménique. Aujourd'hui, même si les rassemblements physiques sont autorisés, nous continuons à proposer l'office en ligne, a-t-il poursuivi. Dans un message, les groupes d'églises d'institutions africaines s'est dit volontaire pour participer activement aux travaux du Conseil œcuménique des églises et à l'organisation de la prochaine assemblée du Conseil œcuménique des églises, la 11e, qui aura lieu à Karlsruhe en Allemagne du 31 août au 8 septembre prochain. Au sujet de cette 11e assemblée du Conseil œcuménique des églises, les membres méthodistes ont adressé leurs prières pour une bonne tenue de ces assises. C'était à l'occasion de la session du comité central du Conseil œcuménique des églises en ce mois de juin. L'évêque Rosemary Vanner du Conseil méthodiste mondial a particulièrement prié pour que le souffle divin aide à surmonter les barrières que nous érigeons pour nous séparer les uns des autres. Au cours de cette rencontre, le pasteur James Bagwan, secrétaire général de la Conférence des Églises du Pacifique, est revenu sur la situation des îles Fidji et du Pacifique. Il a rappelé que la COVID-19 sévit toujours et charrie de lourdes conséquences pour l'économie, avant de déclarer que les Tonga et les Samoa sont sur le point de rouvrir leurs frontières après une longue période de fermeture. En outre, les Tonga sont toujours dans une phase de reconstruction après l'éruption volcanique de janvier 2022. Nous voyons la résilience de nos populations et le rôle que l'Église joue pour mobiliser les communautés, a déclaré le pasteur Bagwan. Concluons notre rubrique en parlant de la solidarité des chrétiens catholiques et orthodoxes avec l'Ukraine. Une caravane de la paix est partie de l'Italie le dimanche 26 juin avec pour but de manifester la proximité et la solidarité avec les victimes de la guerre en Ukraine. Elle a notamment apporté des aides matérielles collectées par 176 associations qui se reconnaissent dans la coalition Stop the War Now. La caravane est arrivée mardi à Mykolaiv, ville martyre au nord d'Odessa. Il s'agit de la deuxième mission en Ukraine du réseau des associations italiennes. Elle a été notamment conduite par D'Antonio Dell'Olio, président de Pro Civitate Cristiana d'Assise. Monseigneur Francesco Savino a représenté la conférence épiscopale italienne. À son arrivée, la caravane de la paix a été accueillie, entre autres, par Monseigneur Stanislas Sciroco Radjuk, évêque latin d'Odessa, par Monseigneur Michailo Bubin, évêque grec catholique d'Odessa, et par Monseigneur Afanasi, évêque ukrainien orthodoxe. Tous sont appelés à un plus grand engagement en faveur de la paix, en particulier de la part de l'Europe. Nous ne sommes pas là uniquement pour apporter de l'aide, même si l'Église sera toujours prête à faire des dons. Nous sommes également ici pour dire que la non-violence est le seul moyen de résoudre les conflits. Ne vous habituez pas à cette guerre, ont-ils lancé. Cette caravane de la paix est une continuation de la première caravane organisée en Ukraine en avril dernier, lorsqu'un convoi de plus de 60 véhicules a atteint la ville occidentale de Lviv. Les organisateurs ont souligné qu'il s'agit d'un choix des témoignages et des proximités. La caravane de la paix est l'expression de la diversité du monde du mouvement pacifiste italien qui s'est reconnu dans l'acronyme Stop the War Now, né en Italie mais avec une vocation européenne.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, c'est ici que s'achève cette édition de notre programme que Christian Combé a eu le plaisir de vous présenter. Et merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Le prochain rendez-vous, c'est demain, même heure, même fréquence et même radio. Mama, e o melodisa.